Bonjour à toutes et à tous, vous voici en compagnie des fous du grand écran, élèves de l'option cinéma du lycée Saint-Pierre d'Abbeville. Le projet PEPS a été financé par la région Hauts-de-France. Au programme aujourd'hui, la découverte des filières et des écoles du cinéma auprès d'Iris. Bonjour Iris.
Bonjour.
La découverte du métier du chef opérateur avec Simon.
Bonjour.
Un voyage direction la cérémonie des Césars avec Éloane.
Salut.
Et si nous partions dans les Cordillères des Andes avec Violaine, qui va nous présenter le Cercle des Neiges de Gia Bayona.
Bonjour.
Rendez-vous avec Sarah pour parler de la série américaine Love, Death and Robots.
Hey.
Raphaël devait nous présenter le blockbuster de l'été dernier, Oppenheimer, mais c'est Éloane qui s'en chargera aujourd'hui.
Rebonjour.
Nous évoquerons également le prochain festival de Cannes. Bonjour Rosalie.
Salut.
Et enfin, Violaine animera un débat sur les prestations de Timothée Chalamet dans Dune Partie 2 et Wonka, nouvelle création 2023.
Rebonjour.
Tout le monde est là ? Parfait. Alors direction, les écoles et filières du cinéma.
Cinéma, télévision, vidéo, radio, tous ces médias fascinent et attirent de plus en plus de jeunes, notamment parce que les supports deviennent de plus en plus nombreux et accessibles aussi. Ces métiers recrutent aussi bien des profils artistiques que techniques. Alors comment est-ce qu'on peut accéder à ce secteur ? Quelles études pour devenir chef opérateur ? Que fait un script ? Comment devenir scénariste ? Et connaissez-vous l'ingénieur du son ? Tout d'abord, quelle formation choisir ? Il existe plusieurs façons pour accéder à un métier. Plusieurs chemins sont possibles, que ce soit pour la pré-production, la production ou la post-production. Ces formations ouvrent souvent la voie à plusieurs professions après les études. Premièrement, les BTS métiers de l'audiovisuel permettent de se spécialiser au plus vite dans les propositions suivantes. Le métier du son, les métiers de l'image, la post-production et le montage, la gestion et la production et techniques d'ingénierie et exploitation des équipements. On peut suivre ces formations après un bac général ou un bac STI 2D, sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Ensuite, le diplôme des métiers de l'art ou DMA permet de se former à la régie de spectacle, donc la lumière ou le son, la création de costumes ou l'animation. Ce diplôme est accessible avec un bac sciences et technologies du design et des arts appliqués, c'est-à-dire STD 2A. Après, pour acquérir une culture cinématographique très solide et se diriger vers un master réalisation, production, écriture, alors la licence art du spectacle spécialité cinéma et audiovisuel est une bonne formation. Afin d'obtenir ce diplôme, des ateliers pratiques et des stages sont mis en place. Par ailleurs, des écoles de cinéma publiques et réputées existent mais sont très élitistes. On a la FEMIST à Paris, la FAMIS à Paris, ou encore l'ENS Lully Lumière, accessible à Bac plus 2, ou encore l'ESAV à Toulouse, à Bac plus 3. À l'étranger, on a l'INSAS à Bruxelles. Cette école est connue et priorisée des étudiants car elle les accueille dès le bac. Elle a cependant un quota à respecter concernant les étrangers et donc les Français. Et puis on a une cinquantaine d'écoles d'audiovisuel privées réparties sur le territoire français. Il faudra débourser en moyenne 6 à 8 000 euros par an pour entrer dans ces écoles. Pour les plus connus, on a l'ECEC, l'école des Gobelins, l'ECAR, l'ESRA, qui est l'école supérieure de réalisation audiovisuelle, ou encore le 3IS. Finalement, on connaît des autodidactes comme le réalisateur Luc Besson en cinéma. Cependant, un diplôme permet d'acquérir de sérieuses connaissances dans le domaine étudié, mais aussi de faire des stages pratiques pour la plupart et de se créer un réseau professionnel. Les études effectuées apprennent aussi le travail d'équipe, qui est une des valeurs très importantes dans ce secteur.
Voilà quelques informations qui seront utiles à nos futurs cinéastes. Et pour aiguiller davantage certains d'entre eux, mon cher Simon, je te laisse leur faire découvrir ce métier du chef opérateur.
En effet, aujourd'hui nous allons nous intéresser sur un métier précis qu'on n'entend pas forcément souvent parler. Celui de chef opérateur, ou que j'aime appeler l'œil du cinéma. Un chef opérateur, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement celui ou celle qui s'occupe des techniques de prise de vue et de la qualité artistique des images. C'est celui qui est à l'origine d'une grosse partie de votre ressenti en voyant les images avec le jeu de couleurs, des couleurs froides pour la peur ou chaudes pour l'action ou l'amour. En résumé, il crée des ambiances avec des lieux de tournage, des décors et des éclairages. Comme matériel, il manie surtout les caméras, plus précisément les optiques de ces caméras, les projecteurs pour la lumière et aussi des décors. Un chef opérateur doit avoir assez de qualité, mais les plus importantes pour moi sont qu'il doit maîtriser parfaitement les techniques de lumière et de prise de vue, il doit avoir un œil artistique, il doit adorer le travail d'équipe et être à l'écoute de ses collaborateurs. Si vous vous y intéressez, voici quelques possibles formations à suivre. Un BTS audiovisuel avec l'option métier de l'image, un BUT MMI, métier du multimédia et de l'internet, ou des écoles comme l'ESSEC. Et voici un court témoignage de François, chef opérateur par Phosphore, un magazine pour les ados de 14 ans et plus.
Le but du chef opérateur, c'est d'aider le réalisateur à concevoir l'image de son film et à avoir une continuité visuelle tout au long du film. Pour ça, il fait le cadre du film et il s'occupe de créer la lumière aussi sur le film. Sur un tournage, on a une partie de management qui est assez importante parce qu'on travaille avec différentes équipes techniques. Il faut savoir lire entre les lignes d'un scénario, comprendre ce qui s'y joue vraiment pour essayer de le retranscrire en images. Par exemple, les émotions des personnages peuvent être exprimées à travers une émotion qui va se dégager directement de l'image et pas forcément de ce que va dire l'acteur. Le documentaire et le cinéma, c'est quelque chose qui me passionnait. Mais j'ai pas trouvé d'école qui correspondait juste après le bac à ça. Du coup, j'ai fait une licence de droit avant de tenter une école de photographie. J'ai commencé à travailler comme photographe et comme assistant photographe. Et ensuite, j'ai tenté l'école de la FEMIS pour faire du cinéma. C'est un métier très divers, on fait des belles rencontres, on voyage. Comme par exemple, en sortant d'école, j'ai suivi un réalisateur sur un documentaire de film au Mali. On fait des faits sans cesse en fait, c'est-à-dire qu'on doit décharger le camion, tous les projecteurs, les câbles, la caméra. Tout ça, c'est énormément de travail avant même qu'on puisse commencer à filmer. Sur un tournage d'un court-métrage, on avait fait un repérage un mois plus tôt, parce qu'on voulait que le film se déroule sous la neige. Tout allait bien, on a choisi nos décors avec le réalisateur. Et un mois plus tard, quand on revient pour tourner le film, plus un pet de neige. Le jour du tournage, il se met à neiger, on ne pouvait plus monter sur le décor et on a dû transporter le matériel sur de l'éluge. C'est quand, de manière collective, toutes les personnes sur le plateau présentes, on a l'impression de faire un film ensemble et qu'il y a une certaine grâce qui naît de cet effort collectif. Et dans le film, quand le film est beau, c'est encore mieux.
Et c'est sur ce beau témoignage que je vous propose de poursuivre notre revue cinématographique. Qu'en dis-tu, Éloane ?
Je suis partant.
Si je vous dis récompense de film français, vous me dites...
César !
Exact. Éloane et moi, nous sommes intéressés à cette cérémonie si particulière. Et cette année, c'est Valérie Lemercier qui a eu l'honneur d'animer la prestigieuse cérémonie des Césars le 23 février dernier. À l'unanimité, un véritable succès. Des interventions et des réactions sincères, émouvantes, en pensant au discours de Judith Godarèche sur l'histoire du cinéma et son expérience personnelle face aux abus du milieu, mais aussi, et heureusement, avec beaucoup d'humour, comme nous en ont persuadé Paul Mirabel ou encore le duo Gorardo-Zadi.
On vous l'accorde, la cérémonie n'a pas pour but de remercier les animateurs de la soirée, mais les créateurs de ce 7ème art. Et parmi tous ces cerveaux, ces mains, ces voix, c'est sur un visage qu'on ne peut manquer aujourd'hui, sur lequel nous allumons le projecteur, celui de Raphaël Quenard.
Bonjour à tous, bonsoir, bien le bonsoir. Moi déjà, dans un premier temps, je voudrais adresser des remerciements et une gratitude infinie à Jean-Baptiste Durand, que vous avez pu voir précédemment sur la scène, tel un champion. Aïe ! Dans un second temps, déjà, de m'avoir fait confiance et de nous avoir offert ce terrain de jeu, avec un certain Anto Bajon, qui est un ami, et Galatea Bellucci, qui sont exceptionnels et qui sont des acteurs avec qui on peut avoir que du plaisir à faire virevolter les répliques, et ceci et cela.
Nommé comme révélation masculine de l'année et meilleur acteur de 2023, ce jeune homme, Deschirolles, aujourd'hui âgé de 32 ans, a vu son visage porté à l'affiche de 6 films rien que cette année. L'acteur, Sentinelle, Je verrai toujours vos visages, Cash, Yannick, et enfin Chien de la casse, dernier film à ce jour, qui lui ont valu ses quelques récompenses.
Donc c'est dans un petit village au sud de la France que Doug et Miralès, de jeunes adultes désœuvrés, amis depuis toujours. L'amitié est pourtant source de multiples conflits. C'est à l'arrivée d'Elsa que le duo explose, car un nouveau lien se crée entre Doug et la jeune femme. Miralès, jaloux, essaiera de tourner la page et de prendre son indépendance.
Une carrière qui a déjà bien débuté, puisqu'il a joué dans 50 films depuis 2017, ce qui n'est pas prêt de s'arrêter.
Et je voudrais dire, moi j'ai une phrase que j'ai entendue qui dit que nos vies, elles sont jalonnées de souffrances et de chagrins, mais la plus terrible d'entre elles, c'est de nous voir chaque jour nous acharner à étouffer le petit enfant qui est en nous. Et grâce aux scénaristes et aux réalisateurs qui nous ont donné leur confiance, il y a aussi une petite phrase de Christian Bobin que je me permets de donner parce qu'elle est particulièrement goûtue, qui dit que les enfants, sont à une cloison de papier à cigarette de la vérité. Et les cinéastes qui nous donnent le champ libre pour venir gesticuler dans leurs univers, et donc je tiens à remercier cette année particulièrement Jean-Baptiste Durand, Quentin Dupieux, Jérém Rozan, Marie-Garelle Weiss, Jeanne Herry, et tous les réalisateurs qui m'ont permis de venir chez eux. Ah, j'attends la petite musique pour accentuer le côté émotion.
Les enfants, c'est une cloison de papier à cigarette de la vérité. Et c'est bien vrai. Raphaël Quenard a pris le temps, au sens propre et littéral, de remercier chacun de ses producteurs, ses amis, cette famille du cinéma qui l'ont poussé dans cette voie.
Un remerciement dédié également à l'Académie et la France tout entière, invitant chaque âme d'artiste à rejoindre cet art des projecteurs. Et tout cela à la manière de Miralles, l'un des personnages principaux et très apprécié de Chien de la Casse. Merci cher ami. Dépayser avec Violaine qui a adoré le film Le Cercle des Neiges.
Oui, c'est cela. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce film pour son histoire, celle d'une tragédie, mais surtout pour sa réalisation, car il est considéré comme étant la meilleure adaptation de ce drame. Mais avant de vous vanter ce film, laissez-moi vous rappeler l'histoire qui l'a inspiré. 13 octobre 1972. Un avion transportant une équipe de rugby uruguayenne, ainsi que leur famille, se crache dans la cordillère des Andes. Après 70 jours passés dans la montagne, là où ils ont vécu l'enfer, les 16 survivants sont enfin sauvés. Le film de Gia Bayona reprend pour la troisième fois ce drame au cinéma, après Survive en 1976 et Alive en 1993. Mais cette fois-ci, nous suivons le point de vue de Numa Tokerti, l'une des victimes de cet événement. Ce film est intéressant pour ses effets spéciaux, ou pas, avec des scènes toutes plus marquantes les unes que les autres, comme celle du crash de l'avion qui a demandé beaucoup de préparation pour les acteurs et l'équipe technique. Il est aussi important de noter qu'une bonne partie des séquences ont été tournées en pleine montagne. On peut également souligner le très grand travail des maquilleurs et du costumier qui ont parfaitement reproduit les différentes réactions de notre corps face au froid et à la faim, les plus intenses comme les lèvres chercées ou les joues creusées. Les acteurs ont fait preuve d'une performance incroyable qui sont perfectionnés tout au long du tournage car la plupart d'entre eux venaient du théâtre. Mais c'est surtout la réalisation de Gia Bayona qui nous avait déjà surpris avec Jurassic World que j'aimerais souligner, car de son point de vue, chaque plan doit procurer une émotion, et ça, chez le spectateur, ça se ressent très bien. On passe d'un sentiment de joie, d'insouciance, lorsqu'on les voit se préparer pour leur voyage, embarquer à bord de l'avion, puis très vite, la peur apparaît avec le crash, et tout le long du film ne cessera de nous surprendre. En bref, je vous conseille de regarder Le Cercle des Neiges pour la performance des acteurs, pour son scénario, et surtout pour sa réalisation, donc je vous invite à découvrir et à juger de vos propres yeux ce film disponible sur Netflix.
Merci Violaine, merci beaucoup. Toi Sarah, tu souhaitais nous parler de cette anthologie qui est Love, Death and Robots. C'est
ça. Oui, plus précisément, je vais essayer de vous convaincre de regarder cette série. Love, Death and Robots, ou Amour, Mort et Robots, a été créée par de multiples producteurs comme David Fincher, qui a notamment réalisé Fight Club ou encore Alien 3, série de films que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Donc c'est une série d'anthologie qui a débuté en 2019 sur Netflix. Il y a actuellement 3 saisons et 35 épisodes. La saison 4 a été annoncée officiellement, mais sans date précise. Je tiens à faire remarquer que c'est une série qui n'est pas pour les enfants, car il y a beaucoup de scènes violentes. Donc ça va être des épisodes qui sont tous plus différents les uns que les autres, ils vont pas être reliés. On va passer du style 2D au style de stop motion, qui consiste à prendre des milliers de photos pour créer un court-métrage. Donc je vais vous parler en particulier de Alberto Mielgo, qui est un réalisateur spécialisé en animation. Il a réalisé notamment 2 épisodes, qui est Jibaro, donc c'est l'histoire d'une sirène qui tente d'attirer un conquistador, mais qui est sourd. Cet épisode reprend en fait le mythe d'Ulysse et les sirènes. Et l'autre épisode, c'est Le Témoin, qui parle d'une femme qui tente d'échapper à un assassin dans les rues d'une ville futuriste et onirique. Il a eu énormément de visibilité et a pu participer à l'animation de films qui ont eu un énorme succès, comme Spider-Man New Generation et Spider-Man in the Spider-Verse. Grâce à ça, il a pu gagner 2 Annie Awards et 4 Emmy Awards pour sa participation à la série. Si ça vous intéresse, je vous propose aussi d'aller voir ses nombreuses interviews, car il explique les procédés d'animation, ainsi que le fait qu'il ait lui-même enregistré tous ses sons.
«
Donc voilà, un extrait de tous les sons qu'il a pu enregistrer lui-même. J'espère que je vous ai donné envie de regarder Love, Death and Robots.
Voilà qui est dit. Merci beaucoup pour cette découverte. Changeons maintenant d'ambiance pour nous retrouver avec Elwan autour de l'histoire de l'homme qu'est Oppenheimer, inspiration du film sorti l'an dernier.
En effet, je vais pouvoir prendre la parole sur le sujet d'Oppenheimer, du film de Nolan et de qui est Oppenheimer dans la vraie vie. Mais donc, de quoi parle ce film ? Alors, en 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis mettent en place le projet Manhattan, destiné à mettre au point la première bombe atomique de l'histoire. Pour piloter ce dispositif, le gouvernement engage J, soit Oppenheimer. On peut maintenant parler de son franc succès, notamment lors de la 96e cérémonie des Oscars. Ce 12e long-métrage de Nolan gagnera 7 Oscars. Julius Robert Oppenheimer est un physicien américain, né le 22 avril 1904 à New York, et mort en février 1967 à Princeton. Il sera le directeur scientifique du projet Manhattan. Ce projet est le projet de recherche du gouvernement américain, dont l'objectif est de produire une bombe atomique au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce projet commencera en 1939 et emploiera environ 130 000 hommes et 2 milliards de dollars américains. En 1945, Julius Robert Oppenheimer est accusé d'être un espion au service de l'Union soviétique. Il fera l'audition de sécurité qui s'est déroulée en avril 1954. En mai 1954, le comité d'audition conclura qu'Oppenheimer n'est plus apte à servir les États-Unis, décision confirmée par l'AEC le 29 juin de la même année. D'ailleurs, le maccartisme, connu sur le nom de la peur rouge, ou plus fréquemment chasse aux sorcières, est un mouvement anticommuniste aux États-Unis pendant la guerre froide entre 1950 et 1954. On peut donc faire le lien avec cette même période que l'audition de sécurité d'Oppenheimer. Et pour finir, une citation importante d'Oppenheimer, « Je suis devenu la mort, le destructeur des mondes ». Ici, on comprend qu'Oppenheimer fait partie principalement de la création de la bombe nucléaire. C'est pour ça qu'on le surnomme le père de la bombe nucléaire, et qu'il est donc à l'origine de la mort de millions de personnes. C'est d'ailleurs un sujet encore actuel avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie.
He knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that.
Et si ce film a résonné dans beaucoup de têtes cet été, c'est aux côtés de Barbie qu'il a souvent été associé, créant ainsi ce mouvement de Barbenheimer, qui lie ces deux blockbusters. Parlons maintenant d'avenir avec Rosalie, et un certain festival qui prend forme du côté de Cannes, je crois.
Exactement, Gabriel. Il y a quelques semaines, France Télévisions et Brut ont annoncé la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes 2024. Et c'est Camille Cotin qui ouvrira et fermera cette 77e édition. Depuis ses débuts humoristiques dans la série Connasse, qui lui a valu une nomination au César pour le meilleur espoir féminin en 2016, l'actrice multiplie les rôles à succès, français, mais aussi à l'international. Que ce soit pour son jeu fort en émotion dans le drame Les Éblouis ou son humour mordant dans 10%, Camille Cotin a su se faire une vraie place dans le cinéma français et elle rendra fièrement hommage à celui-ci du 14 au 25 mai 2024 pendant le Festival de Cannes. Mais elle ne sera pas la seule personnalité en tête d'affiche. En effet, Xavier Dolan viendra également fouler le tapis rouge ce printemps en tant que président du jury Un Certain Regard. Le réalisateur n'en est pas à sa première visite dans la capitale du cinéma français, ayant déjà reçu le prix du jury en 2014 pour Mommy et le Grand Prix en 2016 pour Juste la fin du monde. Il pourra ainsi laisser son regard d'artiste et d'expert juger les films de la sélection dédiée au cinéma d'auteur et de découverte d'ici quelques mois. Une autre célébrité internationale se rendra dans le sud de la France ce printemps, et c'est Greta Gerwig. Réel phénomène de l'année 2023 avec le film Barbie, la réalisatrice américaine fait ses débuts derrière la caméra en 2017 avec le film acclamé par la critique Lady Bird. Il cumule 5 nominations aux Oscars 2018, dont une dans la catégorie meilleur film. Son succès dans la réalisation se poursuit en 2019 avec Les filles du Dr March, l'adaptation au cinéma du célèbre roman de Louisa May Alcott. En 2023, c'est carton plein. Le film Barbie remplit les salles et réalise le meilleur démarrage de l'histoire pour un film réalisé par une femme.
Sa notoriété n'est donc plus à refaire et elle apportera cette année à Cannes son génie cinématographique en tant que présidente du jury. C'est ainsi un grand panel d'artistes renommés qui animera ce printemps un des plus grands festivals cinématographiques de France. On sait aussi que le long-métrage Furiosa de George Miller sera présenté en avant-première le 15 mai 2024 pour ouvrir les festivités. Les acteurs principaux, Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Tom Burke, seront aussi présents sur le tapis rouge. Enfin, le célèbre réalisateur George Lucas, qui a notamment réalisé les 4 premiers Star Wars et écrit les scénarios de la saga Indiana Jones, sera présent le 25 mai pour recevoir la Palme d'honneur et ainsi célébrer son impact sur le cinéma hollywoodien. La liste de personnalités prestigieuses du cinéma international que l'on retrouvera en Côte d'Azur ce printemps ne fait ainsi que de s'allonger. Encore un peu de patience, mais la cérémonie se profile.
Et on a hâte d'y être, merci Rosalie. Passons maintenant à notre dernier sujet, un petit tour de table organisé par Violaine. De quoi souhaitais-tu, nous parler aujourd'hui ?
Alors, notre débat du jour portera sur Timothée Chalamet, un acteur qui a la cote en ce moment. Il a démarré son succès avec Call Me By Your Name en 2017. Il y incarne le rôle d'Elio, un jeune homme de 17 ans qui rencontre Oliver, un jeune diplômé américain avec qui il passe l'été. Depuis, sa carrière n'a cessé de prendre de l'ampleur. Il a joué dans des productions à l'échelle internationale telles que Monka et Dune Partie 2. Dans Dune Partie 2, sorti le 28 février 2024, nous introduisons plus en profondeur dans l'histoire de la planète de Dune. On retrouve Paul Atreides, joué par Timothée Chalamet, qui prend sa place au sein des Fremen, puisqu'il cherche à se venger des Harkonnen qui ont décimé sa famille. Alors, selon vous, est-ce que Timothée Chalamet incarne-t-il bien son rôle de prophète dans Dune Partie 2 ? Simon, nous t'écoutons.
Alors, pour mon avis, moi je pense vraiment que Timothée Chalamet interprète bien le rôle d'interprète parce qu'on le sent dans sa voix et dans ses actions qu'il est fait pour ce rôle, surtout dans sa gestuelle, mais aussi dans ses expressions faciales ou ses expressions de sa voix qui nous donnent une sorte de vibration quand on l'entend. Comme par exemple la scène de la fin du combat qu'il a eu contre Fetreta.
Attention, spoiler.
Prévention.
Sarah, tu avais quelque chose à ajouter, il me semble.
Tout à fait. Moi, c'est pas la performance de Timothée Chalamet que je voulais remarquer, mais celle de Zendaya, qui a notamment joué dans Euphoria, le rôle principal. J'ai trouvé sa performance incroyable, parce que je l'ai vue dans une interview d'Hugo Décrypte, je crois. Elle a réussi à faire passer des émotions sans pleurer, puisque dans l'histoire, l'eau est importante. Et elle n'a pas eu le droit de lâcher de larmes, même dans les scènes les plus tristes. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable de sa part.
Du coup, pour revenir à notre Timothée Chalamet, qui incarne très bien son rôle d'ailleurs, qu'on a pu ressentir, et on peut aussi souligner qu'il est habitué en quelque sorte à la SF, puisqu'il a déjà tourné avec Christopher Nolan dans Interstellar, et là déjà ça a marqué son début de carrière, et qu'il a repris par la suite, aux côtés de Denis Villeneuve, qui s'est très bien entouré de ses acteurs. Voilà. Alors maintenant passons à un tout différent film, qui est Wonka. Où nous retrouvons dans la jeunesse de Willy Wonka et le début de sa fortune. Alors qu'auparavant, dans les deux premiers films, l'acteur principal a été joué par Jane Wilder en 1971 et Johnny Depp en 2005, lorsqu'il confie son usine à Charlie. Donc, pensez-vous que Timothée Chalamet représente et incarne fidèlement le rôle de Willy Wonka dans sa jeunesse ?
Eh bien oui, moi... Pour le coup, et ayant vu Wonka, alors d'une, je vous laisse la parole, hein, mais pour Wonka, là, j'ai eu le plaisir de pouvoir l'écouter, de pouvoir le voir. Donc ça a été une très très belle expérience, puisque le décalage, en fait, par rapport à ce qu'on a pu tous connaître, alors dans notre enfance, même si nos parents pourront mieux en débattre que nous, puisqu'ils l'ont connu à ce moment-là, si on compare un peu les expériences, même si c'est totalement deux univers, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qui se confrontent, puisqu'on a eu affaire autrefois avec Johnny Depp Willy Wonka, merci beaucoup. J'en perds le nom du personnage principal. Un Willy Wonka bien plus sobre et plus excentrique, plus dans l'inquiétude. Ici, Wonka, au contraire, nous paraît bien plus gai et avec une touche de malice et bien plus enfantin avec ses nombreuses chansons qu'il a pu chanter avec ce qui fait plus office d'ailleurs de comédie musicale, mais avec l'ensemble des personnages de ce film.
D'accord, merci beaucoup Gabriel. Je pense que Sarah, tu aimerais rebondir éventuellement.
Tout à fait, et je sais que tu ne vas pas être d'accord avec moi, mais je trouve que la meilleure version de Willy Wonka, ce sera toujours Johnny Depp. Je trouve que Timothée Chalamet n'a pas ce petit grain de folie qu'avait Johnny Depp pour jouer le rôle de Willy Wonka. Et pour moi, c'est vraiment cette version-là qui est la meilleure, qui est la mieux représentée, en fait. Dans le jeu de Johnny Depp, par exemple, la scène où il va accueillir tous les enfants qui ont reçu un ticket d'or, quand il va arriver derrière eux avec tous les petits personnages qui sont en train de brûler et de chanter en même temps, il est dingue, puis il sourit comme ça, il est tout enfantin. Et alors que je trouve que Timothée Chalamet représente pas ça, et justement, ce Willy Wonka-là, moi, je l'aime moins que celui de Johnny Depp.
Ok, je vais d'abord rebondir par rapport à ce que Sarah nous a dit. Le truc, c'est que Timothée Chalamet, il a vraiment une palette de jeux qui est très importante, et donc du coup, oui, contrairement à ce que tu as dit, il possède ce grain de folie. Bah, par exemple, on l'a pu le retrouver dans un film de Wes Anderson, qui sont très connus pour avoir des personnages assez fous. Et donc du coup dans The French Dispatch. Et pour revenir à ce que disait Gabriel, on a vraiment deux univers qui se confrontent parce que on met en face à face la réalisation de Tim Burton à la réalisation de Paul King. Et les deux n'ont vraiment pas le même univers. Par exemple, Tim Burton, il sera vraiment plutôt sombre. Mais il aura ce petit grain de folie qui nous fera rire, mais de manière un peu grinçante. Tandis que celui de Paul King, son univers, c'est par exemple... pour vous citer un film connu de Paul King, c'est Paddington. Donc c'est vraiment un univers enfantin qui vous fera rêver, qui vous fera vraiment vous retourner dans cet univers.
J'allais juste rajouter quelque chose, justement, en reparlant de ce flash et de ce contraste entre les deux mondes, puisque je vous le rappelle, dans la version de Tim Burton, si je ne me trompe pas, on a affaire à un Willy Wonka qui a été plus ou moins abandonné par son papa qui ne lui a pas laissé manger des chocolats alors qu'il avait un appareil dentaire. Et au contraire, dans la version de Paul King, on a affaire à un Willy Wonka qui, au contraire, a laissé sa maman s'envoler comme ça, alors qu'elle lui avait cédé une petite tablette de chocolat. Et l'idée, justement, pour lui, c'était de pouvoir la retrouver. Donc, il y avait cette petite illusion, cette fin qu'il voulait amener en se disant « J'ai un objectif, c'est de retrouver ma maman. » Alors que Willy Wonka, dans la version de Tim Burton, c'était pas forcément un objectif pour lui, bien que ça lui a permis une ouverture, on va dire, plus sentimentale, notamment aux côtés de Charlie. Et aussi de retrouver son papa et d'avoir enfin un dénouement, on va dire, aussi de son histoire, bien qu'elle soit en effet un peu plus grinçante, comme l'a pu le dire Violaine.
Merci à vous pour votre participation à ce débat et à très bientôt.
Tout à fait. Un grand merci à vous, chers amis du lycée Saint-Pierre d'Abbeville. Une pensée particulière à Raphaël et Ludwig, qui n'ont pas pu prêter leur voix au projet. Mais on pense bien fort à vous. Et à vous, chers auditeurs de Radio Campus Amiens, je vous propose de terminer notre émission avec la découverte d'une création sonore réalisée par Sarah, Violaine et Iris. Passez tous une excellente journée, c'était les fous du grand écran.
Ha 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 ha